on va justement parler du résultat du vote de confiance à l'endroit de Jason Kenney. Ça a été dévoilé publiquement hier soir, le 18 mai. Malgré sa victoire serrée, cumulant 51,4% des votes d'appui, Jason Kenney a tout de même démissionné de son poste de premier ministre de l'Alberta. On revient sur ce vote de confiance, pardonnez-moi, avec le professeur de sciences politiques du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily. Bonjour.
Bonjour.
Premièrement, pourquoi Jason Kenney a démissionné de ses fonctions de premier ministre malgré cette victoire-là de 51,4%?
Tout simplement parce que la victoire était trop serrée. Trop serrée pour avoir une légitimité à diriger un parti divisé et presque donc divisé en deux avec un 51%. Il est clair que Jason Kenney avait besoin de beaucoup plus. Il avait besoin minimalement de 60%. Et même à 60%, il y a eu pas mal de doutes quant à savoir si il avait pu continuer à diriger les conservateurs. Parce qu'il faut bien voir aussi qu'habituellement, les votes de confiance, c'est minimalement 2/3 des voix. Et oui. Déjà à 50+1, comme il l'avait annoncé auparavant, c'était tout particulièrement inhabituel. Donc, pas surprenant hier de le voir, même si ça a créé un choc, c'est pas surprenant suite au résultat de le voir annoncer qu'il quittait ses fonctions.
Parce que même s'il avait annoncé que même s'il avait 50, un peu plus de 50%, il garderait son poste, finalement, il est revenu sur sa décision. Mais ça, est-ce que c'est un petit peu par rapport au fait que le Parti conservateur uni, c'est une fusion du Parti progressiste conservateur et du Parti Wild Rose? Ces deux partis-là ont fusionné ensemble en 2019. Est-ce que cette grogne provenant de ses autres membres venait de ces membres du Parti Wild Rose? Est-ce que ça l'a comme... C'est comme venu l'hanter là, en mai 2022?
Oui, absolument. Il y a cette, disons, ce courant de droite issu du Wild Rose, davantage présent en région également, en région du Nord notamment, mais pas exclusivement, qui a une vision de l'État pensablement différente des conservateurs traditionnels, c'est-à-dire une vision de l'État où l'État ne doit pas être trop présent, où la question de l'équilibre budgétaire est fondamentale, mais en même temps, une question d'équilibre budgétaire et d'une sorte de retrait de l'État qui va très loin. Et qui va plus loin même, je dirais, que sous les années de Stephen Harper ou sous les années des conservateurs comme Peter Lougheed dans les années 70 et 80. Donc, une vision du conservatisme qui se rapproche davantage de ce qu'on peut appeler des libertariens pour qui l'État ne doit pas être présent du tout. Et là, arrive la pandémie. Et la pandémie, justement, réveille ou réactive ce courant-là du conservatisme qui trouve que l'État, en mettant en place des mesures sanitaires, on va trop loin, brime les libertés individuelles, met en place en fait aussi des mesures sanitaires, et tout spécifiquement pour le cas albertain, des mesures sanitaires qui valent finalement pour les grandes villes, Québec, Calgary, Edmonton, mais qui ne valent pas pour les régions parce que la pandémie est moins forte. C'est une perception, c'était pas véritablement ce qui se passait sur le terrain, mais cette perception-là qu'il y avait une pandémie à deux vitesses a fait en sorte que du côté des opposants, ben, on reprochait à Jason Kenney pratiquement de mettre en place une dictature sanitaire, un terme qui était repris notamment lors de la campagne électorale fédérale de Maxime Bernier, c'est-à-dire lorsqu'il se promenait dans les campagnes albertaines, par exemple, il mettait souvent dans le même sac Justin Trudeau, Renaud Toul et Jason Kenney comme étant ceux qui imposaient une dictature sanitaire.
Puis, est-ce que c'est vraiment juste la pandémie qui a accentué ce mouvement de conservatisme plus vers la droite, comme tu vous avais dit, libertarienne? Parce que les propos de Randy Boissonneau, c'est ça, c'était ça qu'il disait. Il disait Jason Kenney n'était pas assez extrême. Là, on voit qu'au fédéral, on se tourne un peu plus vers Poilievre. Puis là, Brian Jean, est-ce que c'est vraiment la pandémie qui fait en sorte qu'on veut avoir un conservateur un peu plus vers la droite?
Des conservateurs plus conservateurs, des vrais conservateurs, des conservateurs qui ne se cachent pas. Et c'est ce que dit Pierre Poilievre. Et d'autres candidats, d'ailleurs, à la course à la direction du Parti conservateur fédéral vont dans ce sens-là. Leslyn Lewis également. Donc, il faut lutter, par exemple, contre la culture de l'annulation. Il ne faut pas hésiter, par exemple, à défendre l'héritage de John A. McDonald. Et donc, des thématiques de ce goût-là qu'on entendait aussi, de mêmes thématiques qui sont reprises et qu'on entend également en Alberta, de la part justement de ceux qui veulent un vrai parti conservateur bien aligné là, sur une boussole idéologique là, qui n'est pas au centre, qui n'indique pas le centre, mais qui indique véritablement la droite. Donc, Oui, il y a cette et la pandémie est venue réveiller ça, mais c'était présent avant aussi. Okay. C'était présent parce que il faut se souvenir, l'élection fédérale de 2019 avait montré un portrait politique très tranché au Canada, c'est-à-dire que les conservateurs étaient très, très forts dans l'Ouest. Et ils sont restés forts dans l'Ouest avec une concurrence, cependant, du Parti populaire de Maxime Bernier. Mais ça montre que les germes qui divisent le Parti conservateur étaient là présents en 2019 et on pourrait même remonter à un peu plus loin.
Puis pour revenir à Jason Kenney... Quelle est l'image que Jason Kenney a laissée en tant que premier ministre? Parce qu'on a quand même passé la pandémie avec lui, là. Quelle est l'image qu'on en retire de lui?
Je dirais qu'il y en a deux. Moi, je pense qu'il y a l'image de celui qui a gagné l'élection de 2019 et qui a réussi à ramener les conservateurs unis à ce moment-là au gouvernement et avec une victoire électorale très convaincante, très bien organisée, d'ailleurs même trop bien organisée selon certains contre Brian Jean, mais néanmoins lors de la campagne électorale, le discours et les orientations programmatiques des conservateurs unis sous Jason Kenney étaient relativement clairs. Ramener la prospérité économique, lutter contre le tandem ou le duo Notley-Justin Trudeau. Si on veut résumer sa plus simple expression, il défend évidemment l'industrie énergétique. Si on veut résumer, c'est à peu près ça. Ça, c'est la première image, je dirais, qui peut être vue de manière positive par les conservateurs eux-mêmes. La seconde image, ben, c'est celle de la pandémie. Et ça, celle de la pandémie, même à l'intérieur des rangs conservateurs, donc une grogne très forte pour ceux qui pensent que Jason Kenney allait trop vite, et à l'extérieur du camp conservateur, ceux qui pensent que Jason Kenney n'allait pas assez vite. Et là, il n'a jamais été capable de trouver, disons, la bonne position. Est-ce qu'il devait aller plus rapidement ou pas assez rapidement pour imposer ou non des mesures sanitaires? Jason Kenney n'a jamais parvenu à trouver l'équation qui lui permettrait ou qui lui aurait permis de passer la pandémie avec un certain taux de popularité, à l'inverse, un taux d'impopularité toujours constant dans les bas-fonds.
Par rapport aux francophones, est-ce que c'est une perte qui va faire mal, ça, de ne plus avoir Jason Kenney comme premier ministre, parce que Jason Kenney, il parlait français, il parle le français, mais si c'est Brian Jean ou Daniel Smith qui ont porté leur candidature pour devenir le chef, eux ne parlent pas français. Est-ce que ça peut être une perte, ça, pour les francophones?
Sur le plan symbolique, oui. Je pense qu'on peut dire que ça peut être une perte parce que Jason Kenney est rare premier ministre dans les provinces à s'exprimer dans un français et un excellent français aussi. Ça, il faut lui accorder ça. Bon, par ailleurs, il y a eu toutes les critiques comme quoi il ne comprenait pas la réalité francophone. Il n'arrivait pas à comprendre, par exemple, la réalité francophone dans l'éducation postsecondaire, par exemple. Mais moi, je n'ai jamais considéré que Jason Kenney était anti-francophone. Manque de sensibilité, peut-être, à l'égard des francophones, possiblement, mais ça faisait partie aussi de ses orientations programmatiques lorsqu'il a pris le pouvoir. Et ça, c'était très clair. Tout le système universitaire albertain devait changer. Et dans ce contexte-là, ben, les francophones aussi devaient aussi s'adapter. Donc, de ce point de vue-là, Jason Kenney ne ciblait pas des minorités en particulier. D'ailleurs, son passage au gouvernement fédéral, on n'a jamais vu en lui un conservateur xénophobe. À l'inverse, c'était plutôt l'inverse, à savoir qu'il voulait aller ramener les différentes communautés ethno-culturelles à l'intérieur du Parti conservateur.
En terminant, M. Boily, qu'est-ce qui va arriver là par la suite? Comment on va faire le processus pour remplacer M. Kenney? On a Brian Jean et puis Daniel Smith qui se portent volontaires pour être le chef. Il va peut-être bien y avoir d'autres candidats, mais c'est quoi le processus à partir de maintenant?
Ben, c'est justement ce que les conservateurs sont en train de décider là, au moment où on se parle. Ils sont en réunion au caucus à savoir s'ils vont nommer un chef intérimaire rapidement, ce qui pourrait survenir peut-être dès ce soir. Ou alors, Jason Kenney reste encore en poste jusqu'à la course à la fin, à la fin de la course ou lorsque un nouveau chef sera nommé. J'ai pas l'impression que c'est ça qui va arriver parce que les opposants ne veulent plus qu'il reste en poste. J'ai l'impression qu'on va avoir un chef intérimaire et probablement une course à la direction qui amènerait un nouveau chef ou une nouvelle chef conservatrice autour de l'automne.
Merci beaucoup, M. Boily, d'avoir pris du temps. Vous êtes professeur en sciences politiques au campus Saint-Jean et à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.